Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Sophie Tussaud.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit à la une de l'actualité ce soir. Fin de traque à Strasbourg. Shérif Chekat, le tireur du marché de Noël, a été abattu ce soir par la police. Nous serons à Strasbourg dès le début de ce journal. Accalmie ou acte 5 pour les gilets jaunes. Le gouvernement en appelle à la raison. Les manifestants, eux, veulent poursuivre leur action. L'intervention du gouvernement n'y aura rien fait. Ford écarte l'offre de reprise de Penche pour son usine de Gironde. Bruno Le Maire crie à la trahison. Prendre du cannabis pour se soigner, cela pourrait bientôt être possible. Des experts se prononcent pour son usage à visée thérapeutique, mais excluent d'autoriser les joints. Et puis Rennes a tout donné, y est arrivé. Les Bretons se qualifient pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Comme tous les soirs, la Bourse avec Didier Hamo. Et puis l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir à 22h20, Serge Laroy, le directeur délégué d'Orange Content.
Europe 1.
La chasse à l'homme est donc terminée à Strasbourg après une importante opération de police dans l'après-midi. C'est finalement ce soir que Shérif Chekat, l'auteur de la fusillade du marché de Noël, a été abattu par la police. On prend tout de suite la direction de Strasbourg, près du stade de la Méno, où Shérif Chekat a été abattu. Mathieu Bock, on vous entend, vous êtes avec nous,
oui.
Vous êtes sur place.
Oui, je suis à quelques mètres de la rue Lazaret, c'est là que l'homme a été abattu il y a un peu plus d'une heure. La rue Lazaret, c'est dans le quartier de la Méno, à quelques mètres seulement du stade de la Méno, mais c'est surtout à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où a été vu pour la dernière fois le terroriste, il y a de cela maintenant 48 heures. Donc toute la question maintenant est de savoir comment il a pu échapper à la vigilance des 700 policiers et parcourir, mais 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres, pas plus. On est vraiment dans son fief, là où il a grandi, là où il est resté toutes ses années, toute son enfance et toute son adolescence. Et la situation ici, aux abords, commence à se tendre légèrement. Une policière a fait usage d'une arme pour paralyser les gens. Vous savez, les petites piques avec des impulsions électriques, un taser, pardon. La situation commence à se tendre. Il y a une grosse présence policière, peut-être 100 à 200 policiers qui quadrillent le secteur. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu. Il est reparti en convoi et il devrait s'exprimer dans les minutes qui viennent ici à Strasbourg.
Merci Mathieu Bock à Strasbourg pour Europe 1. Alain Acco, je me tourne vers vous à présent. Est-ce que vous avez d'autres informations? Est-ce qu'on sait davantage ce qui s'est passé ce soir?
Alors, la seule certitude que nous avons à l'heure où nous parlons, c'est que ce n'est pas une unité spécialisée d'intervention qui a abattu Shérif Chekat. Ce n'est pas la BRI, ce n'est pas le RAID, ce n'est pas le GIGN, mais une patrouille de police, une patrouille de policiers locaux appartenant à ce qu'on appelle une BST, une brigade spécialisée de terrain. D'après les informations dont nous disposons, qui ne sont pas encore confirmées officiellement, il semblerait que Shérif Chekat ait quitté sa planque et tenté d'aborder dans la rue une femme qui a vu qu'il était blessé, qu'il a reconnu, qui a appelé le 17, et c'est cette patrouille de la BST qui est arrivée la première sur les lieux. D'après nos informations, c'est Shérif Chekat qui a ouvert le feu en premier, en direction des policiers. Il n'a pas touché les policiers ont riposté et il s'est écroulé au sol. C'est donc un échange de coups de feu qui est à l'origine de ce décès, de cette fin tragique pour lui. Lui qui était recherché depuis deux jours, qui était en cavale, qu'on avait cru apercevoir en fin d'après-midi dans le sud du département et même beaucoup plus loin. On l'avait signalé en direction de Lyon. Des équipages de gendarmerie étaient partis dans cette direction au cas où, car il était signalé un petit peu partout depuis la diffusion d'un portrait robot hier soir par la police nationale. Des vérifications multiples avaient été effectuées, notamment cet après-midi, à la fois à Paris, où deux de ses sœurs ont été entendues en audition libre par les enquêteurs, et puis à Strasbourg, on l'a dit avec Mathieu Bock, dans le quartier du Neudorf, cet après-midi, un important dispositif policier avait été mis en place pour effectuer des vérifications, pour fouiller des entrepôts, et d'après un policier d'une unité d'intervention, toutes ces opérations qui permettaient de fermer des portes, de fermer des possibilités, ont également mis la pression sur le fugitif. C'était l'objectif. Elles étaient destinées à le faire bouger. Il a effectivement bougé ce soir. Il est sorti de sa cachette et c'est ainsi que les policiers ont pu le retrouver. ouvrir le feu quand il a lui-même tiré et donc l'abattre.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette chasse à l'homme. Merci Alain Co du service police-justice d'Europe 1. Cela faisait donc 48 heures que Strasbourg vivait dans la crainte de ce tireur. Écoutez la réaction de deux étudiantes strasbourgeoises à l'annonce de la mort du tireur du marché de Noël.
Moi je suis super contente, oui, il ne faut pas se le cacher. C'est Emma qui vient de me le dire et oui, on va fêter ça. J'espère qu'il y a de la vie qui va revenir dans les rues et dans les transports en commun. Et voilà, j'espère que les victimes reposent en paix et que les familles peuvent trouver le deuil. Et voilà. Moi ce qui m'a marqué c'était plutôt dans les rues. On voit les gens qui regardent par terre ou qui se regardent en chien de faïence et... C'est vrai que ça fait bizarre. Aussi, j'ai voulu sortir hier soir. Il y avait tous les bars qui étaient fermés. On avait l'impression que Strasbourg entier était en deuil. C'est très spécial comme ambiance. Voilà.
Là, du coup, maintenant...
Là, du coup, je pense que ça va aller mieux, que les gens vont fêter. Et c'est super.
C'est curieux de se réjouir de de la mort de quelqu'un.
Oui, mais en l'occurrence, je ne peux pas m'empêcher de m'en réjouir. Voilà.
Et vous ?
Ouais, pareil. C'est juste pour les victimes. J'aurais préféré fêter autre chose, mais bon, voilà.
Témoignage au micro Europe 1 d'Arthur Elbèche et Christophe Castaner. Et donc ce soir à Strasbourg, le ministre de l'Intérieur annonce que le marché de Noël rouvrira demain ses portes normalement. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui sera également demain l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1. Nous reviendrons bien sûr tout au long de la soirée sur ce dénouement, sur le fait que Chérif Chekat, le tireur de Strasbourg, a été abattu ce soir. Également dans l'actualité, les questions autour d'un possible acte 5 des Gilets jaunes. Le gouvernement les appelle à être raisonnables. Emmanuel Macron, depuis Bruxelles, a affirmé avoir apporté une réponse légitime et importante à la France.
Je dirais les choix que j'ai faits pour répondre à une colère que j'estime légitime et juste. Des choix de véritable accompagnement, des mesures fortes, d'accélération, de renforcement, de baisse d'impôts en particulier pour que le travail paye mieux dans notre pays. Aucun pays n'avance s'il n'entend pas aussi cette part de colère légitime de nos peuples. Elle s'exprime partout en Europe, avec des votes extrêmes qui montent dans certains pays, avec le Brexit. Et moi, je ne ferai jamais la politique de mon pays. Je ne mènerai jamais le projet européen auquel je crois contre des aspirations que j'estime légitimes. Je pense qu'elles sont réconciliables et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Emmanuel Macron au micro Europe 1 d'Isabelle Horry. Les mesures annoncées cette semaine par le président ne suffisent pas à apaiser la colère. Plusieurs représentants du mouvement appellent à maintenir les manifestations de samedi. Jérôme est gilet jaune à Toulouse. Pour lui, il n'est pas question d'arrêter.
Moi, je serai dans la rue samedi, sans aucun doute. De toute façon, les choses, si ça doit arriver, ça arrivera. Où qu'on soit, à n'importe quel moment qu'il soit. Lequel bout, je ne sais pas, mais j'irai jusqu'au bout. De toute façon, il faut continuer parce que au stade où on en est, c'est plus possible de faire machine arrière ou d'arrêter la machine, tout simplement. Là, maintenant, on est trop engagé. Le truc qui nous motive encore plus, c'est que on a le sentiment de plus en plus être vraiment pris pour des moins que rien. Quoi. Ça passe plus, quoi.
Jérôme Gilet jaune, micro européen de Benjamin Peter. Et demain est une journée d'action, de grève et de manifestation pour défendre le pouvoir d'achat. Plusieurs secteurs seront touchés. Du côté des transports, le trafic sera normal sur les réseaux SNCF et RATP. Ça coincera toutefois sur certains TER en province et sur la ligne B du RER en Île-de-France. C'est une info européen. La République En Marche a édité la première mouture d'un tract pour les élections européennes. Celui-ci mentionnerait une réflexion collectif sur l'identité nationale. Il a finalement été modifié. Il est 22h09 sur Europe 1. Restez avec nous. Ford a refusé l'offre de reprise pour son usine en Gironde. Bruno Le Maire crie à la trahison.
Europe 1.
Trahison, lâcheté, Bruno Le Maire ne mâche pas ses mots. Ford finalement rejette l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort en Gironde. Une offre pourtant appuyée par le gouvernement. Cet après-midi devant le Sénat, le ministre de l'économie a laissé éclater sa colère.
Je suis révolté. Je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Je veux dénoncer le mensonge de Ford qui dit que l'offre de reprise de Punch n'est pas crédible, alors que c'est une offre industrielle crédible, solide, qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort. Et je veux dénoncer la trahison de Ford vis-à-vis des plus de 800 salariés du site du Blanquefort, à qui je veux rendre hommage, parce qu'ils avaient accepté de réduire leur salaire, de réduire leur RTT, de faire des efforts considérables pour garantir la reprise. Ils ont été trahis par Ford.
Bruno Le Maire, cet après-midi devant le Sénat, 850 postes sont menacés dans l'usine de Blanquefort. Et dans son allocution cet après-midi, Bruno Le Maire a rendu hommage à Philippe Poutou, délégué CGT à l'usine. L'ancien candidat à NPA à la présidentielle continuera à se battre pour sauver des emplois.
Ben nous, on dit que c'est pas perdu. Alors c'est un paradoxe alors qu'on vient d'apprendre une nouvelle catastrophique. C'est vrai, on a presque failli abandonner il y a 2 heures. Mais aujourd'hui, on se dit non, ça fait 10 ans qu'on se bat. Et donc en fait, on se dit mais merde, on tient. Et puis là, en plus, hein, franchement, hein, quand on a un gouvernement ou un ministre qui parle comme ça, ou quand on a des gens des pouvoirs publics et qui ont l'air assez remontés, il n'y a aucune raison d'abandonner là. Il y a 400 emplois directs, puisque vous savez, il y a à peu près la moitié qui est concernée par les plans de départ en pré-retraite, donc qui ont légitimement envie de partir. Mais après, il y a un tour de 400 en tout cas qui ont l'âge de garder leur boulot. C'est avec cela qu'il faut qu'on se batte pour trouver une solution. Et puis derrière ces emplois-là, il y a 2000 emplois indirects ou induits. Hors de question d'accepter cette fermeture d'usine-là et de penser qu'un PSE, comme celui qui est fait par Ford, puisse nous sauver. Parce qu'un PSE, c'est une somme d'argent, mais derrière, c'est du chômage.
Philippe Poutou au micro Europe 1 de Stéphane Place. Carlos Ghosn reste le PDG de Renault en France. Le conseil d'administration a estimé aujourd'hui qu'aucune anomalie n'avait été constatée sur ses revenus en France. Je vous le disais en titre, le cannabis pour se soigner, c'est un tabou qui tombe. Un comité d'experts de l'Agence française du médicament se prononce pour l'usage de cette substance à visée thérapeutique, mais pas en la fumant sous forme de gélules par exemple. Corinne est malade, ses os se soudent, les uns aux autres. La spondylarthrite ankylosante dont elle est atteinte l'a fait terriblement souffrir. Elle a tout essayé, morphine, opiacée. Il n'y a que le cannabis qui la soulage.
Pour moi, ça change tout. Ça change toute ma vie, la vie de ma famille, de tout le monde. Parce que d'être dans la légalité, de plus avoir le souci à chaque fois de se dire est-ce que je vais pas avoir des ennuis parce que je suis obligée d'emmener une gélule avec moi, parce que je suis obligée de jardiner moi-même, parce que je mets tout le monde en danger. Voilà, une sérénité, voilà quoi. Et puis je serai plus considérée comme une délinquante. Je serai comme tout le monde, voilà. Et j'aurai juste mes soucis de santé. Donc, et ça serait un médicament comme un autre, voilà.
Ça vous fait du bien, cannabis thérapeutique?
Ah, moi, il n'y a que ça qui me soulage. Et puis bon, ça m'a donné une vie complètement différente parce que je n'ai pas tous les effets secondaires que j'avais avec les traitements à base d'opiacés ou de morphine. Ça m'a fait une deuxième vie, quoi. C'est vraiment sensationnel.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Ève Roger. Le football, et c'est une première pour Rennes, le club breton se qualifie pour les 16e de finale de la Ligue Europa après sa victoire 2-0 sur les Kazakhs du FC Astana. Loïc Folliot.
La qualification du Stade Rennais porte un nom, celui d'Ismaël Assar. Timoré en première mi-temps, l'attaquant a haussé le ton après la pause et porté sa formation à bout de bras. Tout d'abord en obtenant un pénalty à la 67e, repoussé par le gardien kazakh sur le poteau avant que Sarr ne propulse le ballon au fond des filets. Le Sénégalais a ensuite expédié un tir fulgurant sous la barre 6 minutes plus tard, histoire de plier l'affaire et d'envoyer le Stade Rennais en terre inconnue. Ce succès breton 2-0 permet en effet aux Rouges et Noirs d'obtenir leur ticket pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Une première historique pour le club de François Pinault qui n'avait jamais atteint ce niveau. Un baptême du feu réussi également pour Julien Stéphan, le successeur de Sabri Lamouchi, qui signe son 3e succès consécutif en autant de matchs sur le banc rennais.
Loïc Folliot pour Europe 1. Marseille, de son côté déjà éliminé, quitte la compétition sur une 5e défaite. Les Phocéens s'inclinent à 3-1 face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol. Par ailleurs, l'actualité continue de peser sur le championnat de Ligue 1. La majorité des rencontres sont reportées ce week-end et dernière annonce, le match Dijon-PSG prévu samedi et comptant pour la 18e journée est reporté. Sinédié, c'est ce qu'a fait savoir ce soir la LFP. Le temps de demain, beaucoup de pluie ou de neige cette nuit dans le sud, Elena Morna.
Et oui, on attend jusqu'à 50 cm de neige au-delà de 1800 mètres sur les Pyrénées, 50 mm de pluie sur l'Hérault d'ici demain matin, pluie et neige qui vont s'atténuer en cours de journée, sauf sur la Corse, qui subira encore les affres de la dépression Flora, qui se décale vers l'est de la Méditerranée. Attention, hein, le vent va se renforcer dans le secteur. Ailleurs, la matinée sera marquée par les brouillards, localement givrants, nombreux aussi entre le nord-est, le centre et le lyonnais. Puis une très belle après-midi, surtout entre l'embouchure de la Garonne jusqu'au nord de la Seine. Un bémol nuageux demain matin sur le Finistère, de la pluie l'après-midi, pluie qui balayera la France samedi avec de nombreux phénomènes glissants, du brouillard, du verglas, de la neige. La circulation risque d'être très compliquée. On parle maintenant des choses qui font mal, les températures. Comme aujourd'hui, on aura de fortes gelées au lever du jour. Localement, ça ne dégèlera pas l'après-midi entre la Meuse, le Jura ou encore le Mâconnais. Météo France prévoit 0 degré à Amiens demain après-midi, 1 à Colmar, 2 à Lille, Paris et Blois, 3 pour Caen, Montluçon et Clermont-Ferrand, 4 à Lyon, 5 à Rennes et Grenoble, 6 à Nantes et Angoulême, 9 à Bordeaux et Toulouse, 11 à Brest et Biarritz, 13 à Marseille, 15 à Ajaccio. Le radoucissement est prévu pour dimanche.
Merci Elena Morna. Europe 1. Je vous rappelle la principale information de ce soir. Shérif Chekat, l'auteur de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg, a été tué ce soir par les forces de l'ordre dans un quartier proche du centre-ville de Strasbourg. L'homme a donc été abattu dans le quartier du Nordhof, là où sa trace avait été perdue après son équipée sanglante de mardi. Un important dispositif de police a été déployé ce soir, nous y reviendrons bien sûr dans nos éditions ce soir sur Europe 1. En attendant, restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit La Bourse avec Didier Hamo et l'invité écho d'Emmanuel Duteil et qui reçoit ce soir Serge Larroy, le directeur délégué d'Orange Content. On se retrouve dans un très court instant.
Europe 1.
Il est 22h18 sur Europe 1. On fait à présent un point sur la bourse avec vous, Didier Hamo de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Sophie.
Wall Street a terminé sur une note relativement hésitante ce soir.
Pas de tendance claire non, à Wall Street ce soir, avec un Dow Jones en hausse quand même de 0,29%, petite hausse, 24 597 points. Un Nasdaq en revanche qui recule, qui redonne 0,39%, pas de casse, hein, 7 070 points, toujours à l'écoute des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine qui se poursuivent en coulisses. On a Apple qui monte quand même, qui grappille 1% à $170.80. Le groupe Apple va consacrer 10 milliards de dollars à l'élaboration de nouveaux centres de données sur les 5 prochaines années aux États-Unis, de quoi créer dans le pays jusqu'à 20 000 emplois supplémentaires. Apple donc en hausse d'1% ce soir. Cisco en revanche est stable, de même qu'Amazon qui ne bouge pas. eBay aussi stable. Coca-Cola progresse légèrement de 0,5%. $49.47 malgré la dégradation d'un broker. Il s'agit d'UBS qui est passé d'acheter à neutre sur le dossier Coca-Cola. Le pétrole remonte 3,5% de mieux, il rebondit on va dire, après les fortes baisses de ces dernières semaines. On est à $53 le baril WTI et l'euro revient un cran en arrière, 1,1365, petite baisse face au dollar.
On traverse l'Atlantique à présent, direction la Bourse de Paris qui a marqué une pause après deux séances de forte hausse, Didier.
Oui, ça consolide. Hein. Après deux séances de net rebond, on perd aujourd'hui 0,26%. Petite baisse, 4896 points sur le CAC 40. Sans surprise, la Banque Centrale Européenne, qui était très attendue, n'a pas modifié ses taux directeurs, tout en révisant en baisse ses prévisions de croissance économique en 2018 et 2019. Une révision en légère baisse à 1,9% et 1,7% de croissance pour 2018 et 2019. Sur les grandes valeurs, donc on a soufflé après les deux fortes hausses, les deux journées de hausse qui ont donné un petit peu de peps au marché, on va dire. Le titre Capgemini a redonné 2,7%, Atos moins 2,3%. Ce sont surtout les valeurs qui avait bien rebondi, qui redonne du terrain. On a Legrand, moins 2,2%, Technip, moins 1,6%. Et aussi Pernod Ricard, qui redonne un petit peu de terrain, moins 0,4% ce soir.
Et bien sûr Didier, il y a une exception à cette journée à la Bourse de Paris, et c'est Plastic Omnium qui a fortement progressé.
Oui, quand même, oui, une hausse assez nette de 7%, pratiquement 6,9%. 20,61 € pour Plastic Omnium, donc pour l'équipementier, après la confirmation d'objectifs financiers ambitieux pour la période 2019-2021. Le groupe Plastic Omnium compte accélérer sa génération de trésorerie aussi à hauteur de 200 millions d'euros par an. Ça donne une valeur en forte hausse ce soir. soir de près de 7%, 6,9% à 20,61€ à la clôture. Sur les autres places financières, c'est stable sur le DAX à Francfort, stable aussi à Bruxelles. Madrid monte encore de 0,8% et Milan prend de nouveau 0,5%. On rappelle le CAC 40 en légère baisse ce soir, moins 0,26%, 4896 points.
Merci Didier Hameau de boursier.com. Vous retrouverez la bourse demain soir sur Europe 1. Il est 22h21, à présent l'heure du rendez-vous éco avec Emmanuel Duteil et son invité. Bonsoir Emmanuel. Ce soir, vous recevez Serge Laroy, le directeur délégué d'Orange Content.
Bonsoir Serge Laroy.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes président d'OCS. Alors OCS, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, il y en a peut-être quelques-uns, c'est un bouquet d'Orange, un surabonnement de chaînes dédiées au cinéma et aux séries. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous fêtez, là en ce moment, vos 10 ans. Parmi les gros coups ces dernières années d'OCS, il y a notamment cette série à succès, Game of Thrones. C'est votre locomotive, on ne la trouve que chez vous. Pour regarder Game of Thrones en France, il faut être sur OCS.
Absolument. Alors vous dites c'est un gros coup. Vous savez, c'est très important quand vous êtes dans la télévision payante par abonnement d'avoir des aspérités. Historiquement, puisque vous
des aspérités, ça veut dire des exclusivités.
Absolument. Et puis aussi aller chercher des programmes que l'on ne voit pas ailleurs. Historiquement, puisqu'on fête nos 10 ans, et 10 ans dans la vie d'une entreprise partie de zéro, c'est très important. On parle souvent de dépendance de Game of Thrones. Franchement, quelle belle dépendance. On est tellement satisfait d'avoir traité à l'origine un accord pluriannuel avec HBO.
Qui est la chaîne des séries aux États-Unis.
Absolument emblématique, positionnée haute série avec des thèmes très divers et dont aujourd'hui on ne saurait se passer.
Et du coup, Game of Thrones là va bientôt s'arrêter. Quels sont les prochains Game of Thrones que vous pouvez d'ores et déjà nous annoncer pour les 10 prochaines années?
Alors pour les 10 prochaines années, je n'en serais peut-être pas capable. Mais en tout cas, ce qui est intéressant juste pour savoir, c'est que Game of Thrones, ça va faire 8 saisons. Et pendant les 3 premières saisons, ça a eu du mal à s'installer. Donc, il faut savoir que sur les séries, y compris les plus emblématiques, il faut du temps pour les installer. Alors, HBO prévoit petit à petit le remplacement par la créativité. Donc, on a Westworld, dont vous avez peut-être entendu parler, mais on en a plein d'autres aussi.
Alors, Game of Thrones, justement, je disais que c'était la série la plus téléchargée illégalement parlant. Quand on paye très cher pour pouvoir la diffuser en exclusivité, vous avez dû innover vous aussi dans la façon de la diffuser en France, de façon à lutter contre cela. Oui. C'est un vrai fléau, le téléchargement illégal aujourd'hui en France?
Alors, je crois que ce n'est pas uniquement sur le territoire français où c'est un fléau. On essaye avec HBO et de manière générale avec les ayants droit d'anticiper. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut réduire l'espace entre vous, quand vous avez la diffusion aux États-Unis, eh ben, il faut organiser une diffusion quasiment simultanée en France. Et c'est comme ça qu'on traite avec HBO, mais aussi avec d'autres séries US. Et on a aussi un plan, on va dire, anti-piracy, c'est-à-dire essayer de trouver par tout moyen là où il y a des fuites. Donc c'est très secret, vous savez. La date de diffusion, elle est cachée, elle sera connue.
Y compris chez vous en interne, oui, avec vos collaborateurs. Il y a combien de personnes au courant, par exemple, d'une date de diffusion avant que ça sorte?
Il y en a au moins deux. Il y a Guillaume Jouet, le directeur général d'OCS, et le directeur des programmes, Boris Duchesnay. Donc, et quelques-uns autour de leur équipe. On essaie de tenir ça vraiment le plus caché possible. D'abord parce qu'il y a un effet de surprise. Et je trouve que dans une activité d'entertainment, il faut nourrir l'envie, la rareté. Et donc, si jamais nos abonnés, qui seront bientôt 3 millions, apprennent que c'est disponible partout, franchement, ce n'est pas possible. Le business économique, le business model s'en sortirait pas très bien.
Alors, justement, dans votre business, vous êtes un des gros financeurs également du cinéma français. Alors, moins que Canal+, bien évidemment, mais vous en faites, vous aussi, partie. On a appris que pour la première fois, le gagnant du Festival de Venise de cinéma, la fameuse Mostra de Venise, le film va être diffusé uniquement sur Netflix. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Écoutez, d'abord, moi je dis que la concurrence, quelle qu'elle soit, c'est un vrai booster pour nous, c'est-à-dire que ça nous force à réagir, etc. Les films, c'est important, et le film français l'est aussi, puisque ça, c'est un élément de souscription. Donc sur le film français, vous l'avez vu, on a re-signé un accord avec le cinéma français, c'est 3 ans, pluriannuel, pour un montant de 125 millions d'euros. On va chercher à la fois des comédies, des films de genre, mais aussi des films d'auteur. Et ça, c'est très important, parce que ça permet d'avoir un lien direct avec les abonnés sur le territoire
et
français.
Et vous avez obtenu de pouvoir diffuser un petit peu plus vite que ce qui existait jusque-là, les films, de 6 à 8 mois contre 10 mois jusque-là.
Oui, donc du coup, ça veut dire qu'il y a un raccourcissement de délai par rapport à la sortie salle. Donc ça veut dire que, quoi que l'on pense de la chronologie des médias, Ça veut dire qu'il faut raccourcir les délais. Alors que Netflix, évidemment, acteur over the top, qui, par définition, n'a pas de délai, sauf ses mises en production et ses acquisitions.
Vous fêtez votre 10e anniversaire. Vous voyez où dans 10 ans?
Alors d'abord, on voudra qu'OCS ait un peu plus d'abonnés. On va tangenter les 3 millions. On pense que le potentiel, il est entre 4 et 5 millions. Voilà, ça c'est un premier élément. Ce n'est pas obligatoirement une course au nombre d'abonnés. Il faut que nos abonnés soient le plus fidèles possible et qu'on leur fasse découvrir, qu'on soit en écoute de leurs attentes.
Est-ce que, malgré tout, vous allez y arriver quand on a un concurrent qui s'appelle Netflix à côté, qui est en train aujourd'hui de prendre des parts de marché, qui va arriver directement sur la nouvelle box de Free? C'était l'une des annonces qui a été faite la semaine dernière quand Free a présenté sa box. Là, vous vous dites, mince quand même, ça va être dur.
Bien sûr que ça va être dur, mais ça l'est déjà. Donc, on est rompu à la concurrence. Ce que vous voulez regarder, c'est que d'abord, cette annonce, nous, on est déjà distribué chez Free. Orange distribue Netflix. Donc, l'univers concurrentiel dans lequel on évolue, y compris chez Orange.
Mais c'est vrai que là, qu'ils en fassent un argument de vente, ça montre à quel point ils ont pris une place.
Non, nous, ça ne changera pas grand-chose. Et puis, pour accéder à la box, c'est quand même un certain prix. C'est 480 €. Il faut s'engager sur 48 mois. Donc, on peut dire que ça va toucher certainement une grande niche, une petite niche, de clients Free. Ça, je pense que c'est un peu contraire avec l'évolution du marché.
Mais vous vous sentez armé pour répondre à cette concurrence?
Oui, parce que je crois qu'il faut jouer sur ses forces. Enfin, je veux dire, Netflix, c'est un groupe international. Il investit 8 milliards d'euros en 2018. Il a monté un financement pour passer à 12 milliards en 2019. Donc, raison gardée. Une partie du succès de Netflix, c'est que les studios ont eux-mêmes encouragé et favorisé le développement de Netflix. Nous, il faut absolument qu'on se diversifie dans nos sources d'approvisionnement. Vous avez parlé d'HBO, c'est un contrat long terme. Vous avez parlé du cinéma français, il est important. Et Netflix, s'il veut aussi réussir au niveau des territoires, il a besoin, pardon cet anglicisme, de customiser et d'aller chercher une population avec la culture, des racines, etc.
Donc, vous voulez dire, il aura besoin de financer le cinéma français pour avoir accès à tout ça. C'est ça que vous voulez dire?
Peut-être. En tout cas, peut-être qu'il le fera, il ne fera pas. Mais s'il le fait, il rentrera dans une chronologie des médias. Et donc, son modèle, aujourd'hui, ne le permet pas. Nous aussi, on a décidé d'aller chercher dans les créations originales, c'est-à-dire qu'on va investir 100 millions d'euros sur 5 ans. Et donc, on est en train de se lancer vers ces sujets-là. Alors, on y va aussi, comment dirais-je, à pas compter, puisque c'est très coûteux, mais on va sortir Le Nom de la Rose. Donc, c'est des coproductions internationales avec la RAI. On a Devils, qui est sur la crise financière, notamment de liquidité en Grèce, etc., avec des artistes très connus. Donc, il faut qu'on diversifie nos sources. Et c'est ce qu'on est en train de faire et d'engager.
Et ce que vous nous dites, c'est que vous êtes dans le jeu et que vous comptez bien être encore là dans 10 ans. Un grand merci d'être passé en tout cas par les studios d'Europe 1. Serge Larroy qui est donc à la tête d'OCS. OCS qui fête ses 10 ans. Très bonne soirée à tous sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel Dutheil. C'était l'invité Écho. Vous pouvez bien sûr réécouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Je vous rappelle la principale information de cette soirée. La fin de la traque à Strasbourg. Shérif Chekat, l'auteur de la fusillade du marché de Noël, a été abattu ce soir par la police près du stade de la Méno. Un dénouement après une importante opération de police menée cet après-midi. Christophe Castaner est à Strasbourg. Il a pris la parole ce soir et affirmé que Shérif Chekat avait tiré sur 3 policiers qui l'ont tué en ripostant. Nous reviendrons bien sûr sur cette information dans une demi-heure dans le prochain point sur l'actualité. En attendant, restez sur Europe 1. Dans un instant, c'est la libre antenne avec Sophie Peters. Europe 1.